VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro. Sommaire de cette édition du mercredi 21 décembre 2022. La Gambie affirme avoir déjoué un coup d'état militaire. Kinshasa se réjouit de l'assouplissement par l'ONU de l'embargo sur les armes à destination de la RDC et parle d'injustice réparée. Participant au sommet États-Unis-Afrique, le président Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville revient sur la série de coups d'État en Afrique de l'Ouest.
C'est un coup d'État qui a approuvé, je mets cela entre guillemets, par les peuples. Mais dans le fond, on souhaiterait que le processus démocratique engagé en Afrique se poursuive. C'est la position de l'Union africaine.
Nous retrouverons Denis Sassou Nguesso dans la partie magazine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est ici à Washington, où il va rencontrer Joe Biden et s'adresser au Congrès. À suivre également dans cette session d'information, la Minute Éco. Le Togo passe à la vitesse supérieure dans son projet d'électrification rurale après réception d'un prêt d'environ 3 millions d'euros de la BAD. Et les sports, l'Afrique est optimiste pour son avenir en Coupe du Monde après le Mondial 2022 au Qatar. Bonsoir, bienvenue. On commence par le journal. Le gouvernement de la Gambie a déclaré qu'une tentative de coup d'état militaire a été déjouée la veille et 4 soldats arrêtés. Banjo assure que la situation est totalement sous contrôle. Michel Joseph.
Le gouvernement a annoncé que certains soldats complotaient pour renverser le président Adama Barrow. Le haut commandement des forces armées a monté rapidement une opération militaire hier et a arrêté 4 soldats liés à cette tentative de coup d'état, a écrit dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux Ebrima Sankaré, porte-parole du gouvernement et conseiller présidentiel. Selon lui, les 4 soldats sont interrogés par la police militaire et 3 complices sont recherchés et la situation est totalement sous contrôle. Il n'y a aucune confirmation autre que le communiqué gouvernemental. De rares témoignages ont fait état de mouvements de soldats mardi soir autour de la présidence à Banjul et les rumeurs ont circulé durant la nuit sur une tentative de coup de force. L'accession surprise d'Adama Barrow à la présidence en janvier 2017 a mis fin à 2 décennies de gouvernement autocratique avec Yahya Jammeh actuellement en exil. M. Barrow a largement remporté un 2e mandat en décembre 2021.
Les autorités nigérianes ont reconnu des dommages collatéraux dans des frappes aériennes au cours du week-end qui visaient des bandes criminelles dans le nord-ouest du pays. Des résidents affirmant qu'une centaine de civils ont été tués. Un porte-parole de l'armée de l'air nigérienne a refusé de commenter les frappes lancées samedi dans l'état de Zamfara. Mais le gouverneur de l'état, Bello Matawalé, cité dans un communiqué publié mardi, a exprimé sa compassion à ceux qui ont été blessés et aux familles de ceux qui sont morts en tant que dommages collatéraux, sans donner de chiffres. Le Rwanda a réitéré aujourd'hui dans un communiqué que c'est une erreur de dire que Kigali soutient du moins le groupe armé congolais M23 et détourne l'attention de la véritable cause de la poursuite du conflit dans l'est de la RDC. Le Rwanda invoque son droit à l'intégrité territoriale et se réserve le droit de défendre ses frontières contre les violations des FARDC et des FDLR. La France a condamné mardi ce qu'elle qualifie de soutien du Rwanda aux rebelles du M23. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté mardi une résolution assouplissant l'embargo sur les armes vers la République démocratique du Congo. Une décision saluée par Kinshasa comme une injustice réparée. Les détails avec Nani Talani.
Une bataille gagnée, une injustice réparée, a déclaré sur Twitter le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya, après l'adoption de la résolution onusienne qui retire la mention exigeant que la RDC informe le Conseil de sécurité de tout achat d'armes ou d'aide militaire. En 2008, le Conseil de sécurité avait amendé son régime de sanctions pour qu'il s'applique seulement aux groupes armés. Mais il demandait toujours que Kinshasa notifie à un comité de surveillance tout achat d'armes. L'ONU a été pressée d'agir sur fond d'accusation qu'il empêchait les militaires congolais de protéger les civils face aux groupes armés dans l'Est congolais. Le Conseil de sécurité a également renouvelé le mandat de la MONUSCO pour une année supplémentaire.
Un premier contingent de soldats somaliens envoyés pour s'entraîner en Érythrée est rentré. Ce contingent est donc rentré ce mercredi au pays, a annoncé le ministre de la Défense après des mois de rumeurs évoquant leur déploiement secret dans la région éthiopienne en guerre du Tigré. Les autres reviendront dans les prochains jours, a déclaré Abdulkadi Mohamed Nou, ministre de la Défense, sans préciser combien de soldats étaient concernés. Selon le ministre somalien, ces soldats entraînés participeront à la lutte contre les islamistes radicaux Shebab, groupe affilié à Al-Qaïda, qui combat depuis 15 ans le gouvernement fédéral. 6 soldats djiboutiens détenus par un groupe rebelle depuis l'attaque de leur caserne le 7 octobre ont été libérés, ont annoncé aujourd'hui les rebelles et le gouvernement éthiopien qui a participé aux négociations. 7 soldats djiboutiens avaient été tués et 6 autres portés disparus lors de l'attaque de la base de Garabsdissan dans le nord de ce petit pays de la Corne de l'Afrique. Au Zimbabwe, un député de l'opposition qui a passé 190 jours derrière les barreaux sans procès s'est vu de nouveau refuser sa libération par un tribunal. Job Sikala, 50 ans, membre actif de l'opposition, est gardé dans une prison de haute sécurité de Harare depuis juin. Il a été arrêté avec d'autres opposants pour incitation à la violence. Plus d'une dizaine d'autres membres du principal parti d'opposition, la Coalition citoyenne pour le changement, ont depuis été libérés.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Afghanistan, des centaines de jeunes femmes ont été empêchées aujourd'hui par des gardes armés d'entrer dans le campus universitaire au lendemain de la décision des autorités d'interdire les études supérieures aux jeunes femmes. Rosine Monezero.
Le régime a annoncé mardi soir que les universités afghanes publiques et privées sont désormais interdites aux filles pour une durée indéterminée. Aucune explication n'a été fournie pour le moment pour justifier cette décision. Déjà privés d'enseignement secondaire, des groupes d'étudiantes, abasourdis par la nouvelle, se sont rassemblés devant les grilles fermées des universités à Kaboul, bloquées par les gardes armés pour les empêcher d'y pénétrer. « Nous sommes condamnés, nous avons tout perdu », a indiqué une étudiante refusant d'être identifiée de peur des représailles des talibans qui patrouillaient autour des établissements secondaires. Cette nouvelle interdiction intervient moins de 3 mois après que des milliers de filles et de femmes ont passé les examens d'entrée à l'université dans tout le pays. Sur les réseaux sociaux, les indignations se multipliaient. Certains étudiants ont interrompu leurs examens en solidarité avec leurs camarades jeunes filles.
Premier déplacement à l'étranger de Volodymyr Zelensky depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février. Le président ukrainien sera reçu à la Maison-Blanche par Joe Biden avant de s'adresser au Congrès américain. Abdourahman Dia.
Cette visite montre que les États-Unis soutiendront l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra, a déclaré Karine Jean-Pierre, porte-parole de l'exécutif américain, dans un communiqué officialisant l'événement. Dans un tweet mercredi matin, le président ukrainien a confirmé qu'il était en route pour les États-Unis pour renforcer les capacités de résilience et de défense de l'Ukraine, qu'il rencontrera le président américain et fera un discours devant le Congrès. Ce déplacement, qui sera assorti de l'annonce d'une nouvelle aide américaine qualifiée de significative à l'Ukraine, comprenant notamment un système anti-aérien Patriot, n'est pas du goût de Vladimir Poutine. Le Kremlin a mis en garde contre de nouvelles livraisons d'armes américaines à l'Ukraine qui n'auront pour effet, selon Moscou, que d'aggraver le conflit. Son porte-parole, Dmitri Peskov, a aussi dit ne pas s'attendre à un changement de position de M. Zelensky quant à son refus de négocier avec Vladimir Poutine. Les parlementaires américains s'apprêtent à voter une nouvelle enveloppe massive de soutien à l'Ukraine de près de 45 milliards de dollars.
Vladimir Poutine a promis aujourd'hui de donner aux forces armées russes tous les moyens nécessaires, notamment financiers, pour leur campagne militaire en Ukraine, où il a assuré que Moscou atteindrait tous ses objectifs. Dans un discours devant les responsables militaires russes, le chef du Kremlin a insisté sur l'importance des drones dans le conflit et a annoncé que des missiles balistiques intercontinentaux Sarmat seraient prêts à être déployés dans un proche avenir. Vladimir Poutine a ajouté que l'OTAN utilise toutes ses capacités militaires contre la Russie. Prenant la parole à sa suite, le ministre de la Défense, Sergueï Shoigu, a proposé de relever l'âge du service militaire obligatoire de 21 à 30 ans au lieu de 18 à 27 actuellement. Et puis, le patron de l'Organisation mondiale de la santé s'est dit très préoccupé par la vague de contamination au COVID-19 inédite en Chine, par son ampleur, demandant à Pékin des informations détaillées sur la situation. Lors de sa conférence de presse, le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a souligné que son agence venait en soutien à la Chine. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Nani Talani.
Le Togo a reçu un prêt de 2,73 millions d'euros de la BAD pour son projet d'électrification rurale de 317 localités par mini-réseau solaire. Il a aussi reçu un don d'$1 million du Fonds pour l'énergie durable en Afrique pour financer la phase préparatoire du projet à travers le développement des projets de mini-réseau vert. Selon Togo First, ce projet veut principalement donner l'accès à une énergie propre et durable aux populations rurales mal desservies. L'Algérie, premier exportateur du gaz en Afrique, s'inscrit en faux contre le mécanisme temporaire mis en place par l'Union européenne pour plafonner les prix de gros du gaz. Les marchés de l'énergie doivent rester libres pour pouvoir poursuivre les réalisations et les investissements dans l'amont, a déclaré ce mardi le ministère algérien de l'énergie. L'Union européenne veut bloquer les transactions sur les marchés de gros au-delà d'un certain seuil et empêcher ainsi toute envolée des cours qui se répercuterait sur entreprises et consommateurs. Le plafonnement des prix du gaz doit entrer en vigueur le 15 février pour un an. Terminons par la Banque centrale du Maroc qui a de nouveau relevé ce mardi son taux directeur de 50 points de base à 2,50% afin de freiner une inflation élevée, indique l'institution à l'issue de la réunion trimestrielle de son conseil. La Banque centrale marocaine avait déjà augmenté son taux directeur de 50 points de base lors de son dernier conseil en septembre.
Place maintenant au sport avec Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Oui, bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
L'Afrique est optimiste pour son avenir en Coupe du Monde après le Mondial 2022 au Qatar.
Oui, en effet, le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, s'est dit convaincu qu'une équipe du continent peut atteindre la finale du Mondial 2026. Le Maroc a ouvert la porte en se hissant en demi-finale ce mois-ci. Je suis convaincu qu'une nation africaine ira plus loin lors de la prochaine Coupe du Monde, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse ce mercredi à Johannesburg. En plus du Maroc, qui a accédé en demi-finale au Qatar, le président de la CAF a salué les exploits du Cameroun, qui a battu le Brésil, et de la Tunisie face au Brésil et à la France, respectivement. L'Afrique aura donc des chances supplémentaires de faire ses preuves au Mondial 2026 prévu aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Le continent y enverra notamment 9 ou 10 équipes.
Le Shakhtar Donetsk réclame 40 millions d'euros de dédommagement à la FIFA.
Oui, c'est un club ukrainien qui a donc saisi le tribunal arbitral du sport de Lausanne en Suisse, affirmant avoir souffert financièrement de plusieurs décisions suspensives de la FIFA à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. De nombreux joueurs internationaux ont quitté le club pour ses transferts à coût zéro, déplore Sergei Palkin, directeur général du Shakhtar. Parmi les joueurs ayant quitté le Shakhtar ces derniers mois figurent notamment l'ailier Tété, prêté depuis fin mars à l'Olympique Lyonnais.
En athlétisme, la Kenyane Edna Kiplagat récupère le marathon de Boston 2021 après la suspension de sa compatriote Diana Chamte Kipyokei.
Oui, Kipyoke ayant été déchu de sa victoire pour dopage et suspendu pour 6 ans, Kiplagat a eu droit donc à un beau cadeau de Noël. C'est un grand cadeau qui m'a finalement été attribué après une si longue attente, s'est-elle réjouie sur Twitter. Depuis février 2016, l'athlétisme kenyan se trouve dans le viseur de l'unité d'intégrité de l'athlétisme, le gendarme de l'antidopage, qui a également sanctionné mardi les Kenyans Purity Rionoripo et Betty Wilson pour avoir été contrôlés positifs à des substances interdites.
On finit avec du basketball professionnel américain, la NBA, les New York Knicks enchaîne les victoires.
Oui, ils ont engrangé leur 8e succès consécutif. C'était hier soir donc, en balayant mardi les champions sortants, les Golden State Warriors, 132 à 94. Les Golden State qui étaient privés de Stephen Curry, vous savez, c'est le meilleur joueur, hein. Il était blessé. Denver s'est emparé de la tête à l'ouest en battant Memphis 105 à 91. Après 4 défaites successives, les Chicago Bulls sont allés s'imposer à Miami 113 à 103. Utah Jazz, porté par le Finlandais Lauri Markkanen, auteur de 38 points, a dominé Détroit 126 à 111.
La page des sports de VOA Afrique ce jour est signée Bagassi Koura.
Merci Jean-Roger.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, se dit satisfait des conclusions du sommet des dirigeants États-Unis-Afrique qui s'est tenu la semaine dernière à Washington. En outre, le président congolais, qui est aussi à la tête du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, a attiré l'attention sur la nécessité de résoudre la crise politique libyenne. Dans une interview exclusive à Mariama Diallo de la VOA, le président Denis Sassou Nguesso revient sur la multiplication des coups d'État ces derniers temps en Afrique de l'Ouest.
Tous ces changements anticonstitutionnels ont été condamnés par l'Union africaine. Par principe, parce que l'Union africaine, les dirigeants africains souhaitent que le processus démocratique, même s'il est difficile, il vaut mieux qu'il se poursuive avec des difficultés, mais qu'il se poursuive quand même, et qu'il n'y ait pas d'entrave. Et cela a été condamné au niveau de l'Union africaine. Maintenant, le paradoxe pourrait être le fait que dans certains cas, certains coups d'État sont approuvés par les peuples. Quand on observe, c'est là où se trouve le paradoxe, que certains coups d'État, je dis, sont approuvés, je mets cela entre guillemets quand même, par les peuples. Bon, dans le fond, on souhaiterait quand même que le processus démocratique engagé en Afrique qui se poursuive. C'est la position de l'Union africaine et de l'ensemble des dirigeants, pas la CEDEAO seulement, mais l'Union africaine.
Vous allez rester dans la politique. Écoutez, vous êtes élu et vous avez été élu et réélu. Vous pensez déjà au futur? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que vous allez à la prochaine élection?
Les gens qui gouvernent en pensant à la prochaine élection, et ils abandonnent l'essentiel pour penser à l'heure. Je ne suis pas dans ce cas-là. Et moi, j'exécute les programmes pour lesquels j'ai été élu, parce que j'ai proposé à mon peuple un certain nombre d'actions. Il faut que je me batte pour qu'elles soient mises en œuvre. Et je ne pense pas à la prochaine élection. Pas du tout. Voilà. Pas du tout.
En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler.
Je vous en prie.
Monsieur Guesso et Monsieur le Président, un dernier mot.
Le sujet et qu'on n'a peut-être pas beaucoup abordé, c'est le sujet de paix et de sécurité en Afrique. Parce qu'on parle de tous ces développements. Et s'il n'y a pas la paix et la sécurité en Afrique, on ne réalisera rien.
C'est pour ça que j'ai posé la question sur les coups d'État, par exemple.
Bon, mais et pas seulement. Il y a le terrorisme. Il y a le développement du terrorisme en Afrique. Et il y a le dossier important de la Libye. Et je pense que tant qu'on n'aura pas bien résolu le problème de la Libye, et on ne verra pas le bout du tunnel dans le Sahel. Et donc le problème de développement du terrorisme, d'extrémisme violent en Afrique, le problème de paix de manière globale, et c'est un problème important.
C'était Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. En RDC, le gouvernement salue la levée hier par le Conseil de sécurité de l'ONU de l'obligation de notification sur l'acquisition d'armes. Le porte-parole du gouvernement a fait savoir que cette résolution de l'ONU permettra à la RDC de se doter des armes pour assurer sa défense. L'opposition et la société civile ont, elles aussi, salué cette résolution de l'ONU. La levée de cette mesure avait été réclamée plusieurs fois par les autorités congolaises. C'est tout un pays qui salue cette avancée. Les détails avec Alès Kati Kataï, notre correspondant à Kinshasa.
Cette résolution vient corriger une injustice qui empêchait notre pays à se doter librement d'équipements militaires pour assurer sa défense, a déclaré le gouvernement congolais dans un communiqué publié mardi soir. L'adoption de cette résolution sur la levée de l'obligation des notifications d'achat d'armes est une victoire de la diplomatie congolaise, affirme Christophe Lutundula, vice-premier ministre des Affaires étrangères.
On ne peut pas minimiser cela, c'est une victoire diplomatique mais sans triomphalisme. Nous devons cette victoire en vérité au courage politique, à dynamisme et à la détermination du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et je peux témoigner, comme ministre des Affaires étrangères, travaillant avec lui jour et nuit, qu'aucun jour, je n'ai lu sur le visage du président le découragement, l'affaiblissement, quelques signes que ce soit, qui prouvent qu'il va lâcher.
Avec cette nouvelle résolution, l'opposition estime que le gouvernement n'aura plus de raison de ne pas défendre l'intégrité du territoire national. Blanchard Mongomba, de Nouvel Élan, un parti d'opposition, précise que cette résolution n'est pas à mettre à l'actif du gouvernement, mais plutôt la victoire du peuple congolais.
Nous devons parler État, nous devons parler République au lieu de parler gouvernement, parce que je crois que c'est un processus et c'est même le fruit du combat, des marches, revendications de la population congolaise sur toute l'étendue de la République qui a manifesté cette volonté. Et les Nations Unies ont compris que c'est un peuple qui s'est exprimé, d'où la nécessité d'élever cette mesure de manière à permettre à ces peuples d'appliquer ou d'exercer sa souveraineté selon que son État est agressé.
C'est tout un peuple qui salue cette décision du Conseil de sécurité de l'ONU. La société civile parle d'une avancée importante, mais réclame des Nations Unies encore plus. Jonas Tshombela, de la Nouvelle Société Civile du Congo, appelle l'ONU à sanctionner les agresseurs du Congo.
Mais en même temps, nous restons inquiets. Comme si on tentait de consacrer l'impunité, nous appelons le Conseil de sécurité et la communauté internationale d'envisager les sanctions contre le Rwanda et les terroristes du M23, le pays agresseur de la République démocratique du Congo. C'est de cette manière que nous pourrions encourager la lutte contre l'impunité et la déstabilisation des pays voisins dans la sous-région.
Une résolution décrétant l'embargo sur les armes en RDC avait été adoptée en 2008. Le Conseil de sécurité avait décidé d'appliquer cet embargo exclusivement aux groupes armés, tandis que les fournisseurs du gouvernement étaient soumis à un régime de notification au comité de surveillance de l'ONU. Une décision qui handicapait le gouvernement dans l'acquisition des armes. L'acteur politique Thierry Monsenepo appelle le gouvernement à renforcer le contrôle de ces armes afin d'éviter de nouvelles sanctions.
Il est donc important que nos responsables militaires puissent prendre en compte que cette levée de la notification est, c'est vrai, un acte positif, mais c'est aussi une interpellation morale en l'endroit de ces autorités et aussi du gouvernement qui devrait nécessairement et désormais prendre plus de précautions en ce qui concerne les mouvements et la mobilité des armes sur le territoire congolais.
L'ONU tient à préciser que cette décision concerne exclusivement le gouvernement congolais. L'embargo sur les armes reste maintenu pour les groupes armés. Alex Katikatai, Kinshasa, VO Afrique.
Au Cameroun, le journaliste Amadou Vamulke, en détention provisoire depuis 6 ans et demi, est désormais fixé sur son sort dans le cadre de l'affaire qui l'oppose à l'État du Cameroun. L'ancien directeur général en 2005 et 2016 de la Cameroun Radio and Television, CRTV, l'organe audiovisuel public, a été condamné ce mercredi à 12 ans de prison pour détournement de fonds par le tribunal criminel spécial. De Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Julentap.
D'après le verdict, Amadou Vamulke s'est attribué indûment des indemnités de transport, de congés annuels, des frais de représentation, en plus d'avoir procédé au paiement indu des compléments de salaire au personnel du ministère des Finances, soit un peu plus de 45 millions de francs CFA. Mais Georges Wamba, l'avocat d'Amadou Vamulke, rejette toujours ces chefs d'accusation.
Les points qui ont fondé notre défense, c'était les points qui étaient relatifs à l'inexistence matérielle. L'inexistence juridique, le défaut de fondement de l'accusation qui pesait sur lui. Malgré tous nos efforts, malgré les infractions qui n'étaient pas évidentes, le tribunal a quand même trouvé des astuces pour pouvoir le condamner. Mais nous sommes satisfaits parce que, par rapport à M. Vamulke, tous les points de droit, tous les points de doctrine, tous les points de jurisprudence ont été mis à contribution pour son acquittement. Bon, hélas.
L'ancien directeur général de la CRTV a assisté pendant plus de 13 heures à la dernière audience. Il a commenté le contenu des 650 pages du procès verbal de ces 6 années de procès. En ces termes, je cite, « Il s'agit d'une volonté de neutraliser par la forfaiture celui qui n'a commis aucune forfaiture ». Fin de citation. La culpabilité d'Amadou Vamulke a été également établie dans la gestion de la somme de plus de 570 millions de francs CFA en coaction avec l'ancien ministre des Finances, Polycarp Abaaba, qui écope de 17 ans d'emprisonnement.
Nous avons l'impression que les magistrats sont aux ordres.
Antoine Marcel Mont, avocat de Polycarp Abaaba.
Il est clairement établi que les fonds dont le détournement lui est imputé ont été utilisés par la direction des impôts sur instruction du directeur général de l'époque, qu'on le déclare coupable de détournement des mêmes fonds. Nous tombons des nues, parce que les mêmes fonds ne peuvent pas être utilisés par les bénéficiaires de la direction générale des impôts et être encore détournés par M. Vamulk et Abba Polycarp.
Ce matin, les avocats de l'ancien directeur général de la CRTV ont déposé un pouvoir en cassation devant la Cour suprême. Cette condamnation est une cause juste, a déclaré devant le tribunal l'un des avocats de la partie civile. Alain Massé, président du comité international pour la réhabilitation et la libération d'Amadou Vamulke, a appelé dans un communiqué à la libération du journaliste après, je cite, sa condamnation illégale à 12 ans de prison dans un procès illégal et sans aucune charge, qui a établi un record de 150 renvois. Fin de citation. En mi-janvier, Amadou Vamulke attend un autre verdict dans le cadre du second volet de cette affaire. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
En 2022, les pays africains de la région occidentale du Sahel, dont le Burkina Faso, le Mali et le Niger, ont enregistré une augmentation de 50% des décès dus au conflit, selon les chiffres de Armed Location and Event Data Project. Au fur et à mesure que la violence s'est propagée, l'influence et l'instabilité politique de la Russie se sont également étendues avec une augmentation des coups d'État et du nombre de personnes déplacées. Reportage de Henry Wilkins à Niamey, au Niger, le récit est de Nani Talani.
Alors que le conflit du Sahel occidental entrait dans sa 11e année en 2022, la violence s'est aggravée. Les données de Armed Conflict Location and Event Data Project montrent environ 9000 décès dus au conflit en 2022. Certains, comme Bachirou Ouédraogo au Niger, pensent que la Russie remédiera à l'insécurité du Burkina Faso.
Le souci, et puis en fait aussi, la France, on était avec la France depuis longtemps. Actuellement, on ne peut pas dire il y a sauce partout, il y a des terroristes partout. S'il veut nous aider à lutter contre les terroristes, ce n'était pas aujourd'hui. Depuis, ça n'allait finir. Mais si tu es avec quelqu'un et puis ton problème n'arrange pas, il faut le débarrasser et puis tu cherches quelqu'un qui va t'aider à arranger ton problème.
2022 a également vu la France terminer l'opération Barkhane. La France déplace maintenant une grande partie de son opération militaire au Sahel vers le Niger. Les juntes maliennes et burkinabées ont dénoncé l'incapacité des précédents gouvernements à combattre l'insécurité. Interrogé sur la manière dont le conflit du Sahel pourrait se développer en 2023, un analyste a déclaré à la VOA:
ce qui reste à voir, c'est ce qui se passe pendant que la population du Mali comprend que les choses empirent malgré tout. Le Burkina Faso, je m'inquiète beaucoup. Je pense qu'étant donné l'ampleur du problème au Burkina Faso, je crois qu'ils ont besoin de beaucoup plus d'aide internationale. J'aimerais voir le gouvernement américain s'impliquer davantage pour aider le gouvernement burkinabé.
Les analystes ont également noté qu'un nombre croissant d'attaques terroristes ont lieu dans les régions du nord de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Togo et du Bénin, ainsi que le long des frontières avec le Burkina Faso et le Niger. Pendant ce temps, les droits humains continuent également de se détériorer. Daouda Diallo dirige un groupe burkinabé de défense des droits, le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés.
Il faut dire très clairement que depuis janvier à nos jours, avec une grande tristesse et amertume, on a constaté que la situation sécuritaire a continué à se dégrader. Et parallèlement à cette dégradation de la situation sécuritaire, il y a les cas de violation des droits humains qui ont gagné du terrain.
Au total, plus de 2,5 millions de personnes ont été déplacées par le conflit au Sahel.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro. À la mise en onde, Michel Joseph. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.